Gloire à Dieu. Alors, on est heureux de se réunir le dimanche matin pour rendre un culte à Dieu. Déjà, je veux dire merci au groupe de louanges et à Pierre pour ces beaux chants. Vous savez, ça fait un tout, hein. La louange, le message, la communion fraternelle, c'est un tout. Et la louange, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui prépare le terrain de Jésus-Christ. C'est quelque chose qui prépare les cœurs. Et on a chanté cet amour qui peut restaurer. Amen. On a besoin de l'amour de Christ. Il y a eu de belles prières ce matin. Merci pour ton pardon. Merci pour ton sang pour moi qui a coulé. Mais je veux dire aussi qu'il a coulé pour les personnes qui sont là, peut-être pour la première fois ou qui ne connaissent pas forcément l'Évangile. Le sang de Christ a coulé pour toi. Et nous voulons que chacun d'entre nous, on puisse le recevoir ce matin. On a chanté aussi... Maintenant, je vois l'amour et la grâce. Alléluia. Seigneur, enlève nos écailles de nos yeux et qu'on puisse vraiment voir l'amour et la grâce. Amen. J'aurais commencé avec une petite histoire. C'est l'histoire d'un petit garçon qui vient à l'église avec sa mère. Et sa mère l'a toujours instruit en disant, écoute, tu dois toujours dire la vérité et surtout toujours être poli. Toujours dire la vérité, toujours être poli. Et ce matin-là, donc, durant le culte, le petit garçon était devant, et puis, bon, des fois, les prédicateurs sont un petit peu ennuyeux. Et derrière le prédicateur, il y avait une image, quelque chose qui devait représenter Jésus-Christ. Et le petit garçon, il était attentionné par cette image. Mais il était embêté parce que le prédicateur, il était juste devant. Donc, il est toujours en train de... Et soudainement, il se lève, le petit garçon, en disant... « S'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pouvez vous pousser, vous m'empêcher de voir Jésus ?» Et la maman, un petit peu déconcertée, « Mais écoute, qu'est-ce que tu fais ?»« Ah ben, tu m'as dit d'être poli et de toujours dire la vérité. » Et je vous apporte cela parce que je pense que notre chemin doit être préparé. Le chemin doit être préparé pour Jésus-Christ. Et ce matin, nous voulons dire, d'une façon polie, mais que tout ce qui est de l'ordre du religieux, tout ce qui voudrait cacher l'image de Christ, eh bien, que ça puisse être repoussé. Dans le nom de Jésus, parce que nous voulons voir Jésus-Christ. Nous voulons voir Jésus-Christ. Et ce que je vous apportais ce matin, je voudrais vous parler de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est celui qui a préparé le chemin pour Jésus. Alors je voudrais qu'on lise une lecture, qu'on fasse une lecture dans l'évangile de Luc. Et j'aimerais bien que quelqu'un puisse le lire. Serge, est-ce que tu peux lire ce passage ? Alors, Luc, chapitre 3. Alors, Luc, chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 8.
La 15e année du règne de Tibère César, alors que Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de Liturée et du territoire de Traconite, Lysanias, tétrarque de l'Abilène et du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans toute la région du Jourdain. Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits et les chemins raboteux seront nivelés. Et toute chair verra le salut de Dieu. » Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. »
Amen. Merci Serge. Je me suis posé cette question de... Dieu a besoin de quelle personne dans l'Église ? Dieu appelle quel homme et femme ? Eh bien, dans nos Églises, je pense que Dieu appelle des gens qui veulent préparer le chemin du Seigneur. Hein? Des gens qui sont là aussi pour hâter le royaume de Dieu. À travers Jean-Baptiste, ce que nous pouvons voir à travers Jean-Baptiste, c'est que c'est un homme qui a reçu une parole de Dieu. Quelqu'un qui était à part, il a reçu une parole de Dieu et il a été l'annoncer. Et ce qu'il y a de bien dans l'évangile, c'est que c'est un message actuel. Quand vous avez entendu les premiers versets, il nous est parlé d'un tas de personnes, de gouverneurs, de personnes qui étaient en train de gouverner, des hommes religieux. Et aujourd'hui, on pourrait l'adapter à notre temps. En 2017, Emmanuel Macron faisait telle ou telle chose, les ministres réfléchissaient sur telle ou telle chose. Des religieux, catholiques, et puis le CNEF faisait tel ou tel projet pour telle ou telle chose. Et la parole de Dieu a été donnée à une personne. Ce que je veux dire par là, c'est que la parole de Dieu n'a pas forcément été donnée à ces gouverneurs, à ces gens qui étaient là, à ces personnes qui étaient bien placées ou placées. Elle a été donnée à un homme qui était un petit peu obscur, qui était dans le désert, qui était en retraite, et la parole de Dieu a été donnée à cet homme-là. Je voudrais vous dire ce matin que chacun d'entre nous, on vit des choses dans notre vie. Il y a quelque chose qui est là, de l'actualité, il y a quelque chose qui bouillonne. Mais je veux croire aussi que la parole de Dieu, elle est là ce matin pour chacun d'entre nous, dans ta vie. Dans ta vie, tu vis des choses, il y a des choses qui sont là. Mais je crois aussi que Dieu veut t'apporter une parole précise ce matin. Hein, non pas à telle ou telle personne, mais à toi précisément. Donc au milieu de ta vie, Dieu veut encore donner sa parole pour toi. Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui vit dans un contexte religieux. Et dimanche dernier, donc Daniel nous a parlé de ce qui est religieux. Et Jean-Baptiste est vraiment quelqu'un qui vivait dans ce contexte-là. Le contexte d'Israël, à ce moment-là, était particulier. Il était particulier parce qu'il y avait une religion qui était morte avec des rites de purification, et puis chacun effectuer son salut à sa façon. Hein. Et de l'autre côté, il y avait aussi quelque chose de frénétique, quelque chose pour une attente du Messie, mais vraiment très intense. Il y avait vraiment beaucoup d'activités autour de ça. Les historiens nous disent qu'il y avait 33 personnes au temps de Jésus qui se nommaient comme le Messie. Donc il y avait vraiment une activité très forte. D'un côté, il y avait une religion morte, et de l'autre côté, il y avait beaucoup d'informations qui étaient données, beaucoup de choses, beaucoup de remue-ménage autour de l'attente du Christ. Et ça me fait penser aussi un petit peu à notre siècle. Des fois, je me dis qu'on se perd. Bon, il y a vraiment beaucoup d'informations. Et je ne sais pas s'il y a des moments où on se fixe sur telle ou telle chose et on se perd dans tout ça. Quelqu'un a dit que le 21e siècle sera religieux ou ne le sera pas. Et il y a beaucoup de choses religieuses, hein. Aussi bien une religion morte que des choses qui nous conduisent à droite et à gauche. Et dans tout ça, dans tout ce marasme, dans toutes ces choses, eh bien, Jean-Baptiste était là et lui, il a su reconnaître le Christ. Il a su voir le Christ. Et c'est vrai que des fois, je me pose la question, donc là, c'était la première venue de Jésus-Christ, mais il y a une seconde venue de Jésus-Christ, et dans quel état le peuple de Dieu peut se trouver ? Hein ? Quel est, comment on se trouve ? Est-ce qu'on arriverait à reconnaître Jésus si demain il vient ? Est-ce qu'on est vraiment bien focalisé sur ce qu'il est ? Est-ce qu'on a vraiment cette communication avec notre Seigneur ? Et Jean-Baptiste était un homme qui a vécu dans un contexte religieux. Mais le message de Jean-Baptiste, et c'est un message pour toi aussi ce matin, quel que soit ton arrière-plan religieux, hein, peut-être que quelqu'un ici a un arrière-plan religieux, ou quelle que soit même ta non-connaissance de Dieu, ou même ce que tu peux connaître, ce qu'on sait, c'est que Dieu a un plan pour et une destinée pour chaque homme et chaque femme. Est-ce que tu l'entends ce matin ? Dieu a un plan pour chaque homme et chaque femme. Vous pouvez mettre votre nom. Il est marqué qu'il nous connaît par notre nom. On l'a chanté. Hein, son amour, il nous connaît par notre nom. Tu t'appelles un tel et Dieu a quelque chose pour toi. Elle s'appelle un tel et tu seras ainsi. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et Jean, l'appel de Jean, c'est ça. C'est venez à une relation avec Christ, mais une relation vivante. Amen. Hein, qu'on soit réveillés pour Jésus-Christ, qu'on puisse mettre de côté tout ce que nous on a pu apprendre et vraiment se tourner vers Jésus. Donc Jean n'est pas venu apporter une nouvelle religion. Jean n'est pas venu non plus apporter une ancienne religion. Jean n'est pas venu aussi parler d'un nouveau réveil. Jean est venu apporter le nom d'une personne. Il est venu apporter et commencer à préparer le chemin pour Jésus-Christ. Et ce matin, ce que je veux de tout mon cœur, et Dieu est là, je veux que ce chemin soit, que toute pierre soit ôtée, hein, que Christ puisse faire vraiment son œuvre dans les cœurs des uns et des autres. Et Jean-Baptiste a pointé du doigt Jésus-Christ en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Amen. Ça, c'est vraiment un message magnifique. C'est vraiment le but de l'évangile. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'est pas venu là pour élever une religion, mais Jean-Baptiste est là pour présenter Jésus-Christ. Jésus-Christ, tel qu'il est. Il est le même hier et aujourd'hui. Il est éternel, il est le vivant. Amen, il est le vivant, il est le Messie, le fidèle, le puissant et le juste. Voici l'agneau de Dieu. Et à travers ça, ce que j'aimerais, c'est qu'en tant que frères et sœurs, peut-être qu'on reprenne un petit peu cette vocation de Jean-Baptiste. On a besoin de Jean-Baptiste dans nos assemblées. On a besoin de personnes qui ont quelque part cette vocation un peu prophétique, c'est-à-dire de se lever d'une certaine voie pour préparer le chemin de Jésus-Christ. Jean-Baptiste n'hésitait pas, quand il voyait qu'il y a des choses qui étaient là pour freiner la venue du Christ, il allait à sa manière, mais il allait le dire, parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait quoi que ce soit qui empêche la venue de Jésus-Christ. Alors qu'on soit des hommes et des femmes qui ont cette vocation de préparer le chemin. Oui, on vit des difficultés, oui, on peut se morfondre sur soi-même, mais ce que je veux, c'est que le chemin soit préparé pour Jésus-Christ. Et une vocation aussi à amener les gens au pardon de Dieu. Hein, Dieu veut nous pardonner. Dieu veut nous pardonner et nous devons aussi nous repentir devant lui pour être pardonnés de nos péchés. Le message de Jean-Baptiste, c'est un message avec une passion. Il s'adresse à tous, à tout le monde. Les pauvres, les pharisiens, les soldats, les riches, les autorités, les méprisés, les respectés, les foules. Et tout le monde venait à lui. Et c'est un message soudain, un message qui transforme la vie. Et ce matin, tu peux recevoir aussi ce message, un message qui percute ta vie, quelque chose qui te touche pour repartir d'un pas nouveau. Jean est venu pour appeler au pardon des péchés, à la repentance. Et c'est un message qui brûle sur son cœur, un message de passion. Il dit « Le royaume de Dieu est proche et il y a un Dieu vivant ». Le chanteur de U2, Bono, est un homme qui a beaucoup étudié les religions. C'est quelqu'un qui a recherché à travers les religions et il dit quelque chose d'intéressant. Il dit que la différence entre le christianisme et les autres religions, c'est que de nombreuses religions vous enseignent une loi, la loi du karma. Peut-être que pour certains, ça parle, ça. La loi du karma. La loi du karma, c'est, en fin de compte, ce que tu vis aujourd'hui, c'est le résultat de ton passé. C'est le résultat d'une vie passée. Et si aujourd'hui, par exemple, tu vis dans la misère ou quoi que ce soit, c'est parce qu'avant, il y avait telle ou telle chose. Et ce qu'il a observé, Bono, c'est que dans toute religion, il y a toujours une certaine forme de vengeance où tu vas payer. Si aujourd'hui, tu es comme ça, tu es miséreux, c'est parce que tu dois payer quelque chose. Et la différence avec le christianisme, c'est que le christianisme enseigne la grâce. Enseigne la grâce. Et c'est vrai que le karma, c'est quelque chose d'assez terrible. Par exemple, en Inde, si vous avez un homme riche qui roule dans une belle voiture, il sort de sa voiture, il est riche, et puis il voit un enfant par terre, il va passer par-dessus sans s'en occuper, parce que pour lui, c'est son karma. Il est pauvre, il est ainsi, c'est son karma. Moi, mon karma, c'est que, voilà, il est riche. Et le christianisme enseigne une grâce. Et qu'est-ce qu'il nous enseigne? C'est que le karma, si j'ose m'exprimer ainsi, eh bien, Jésus-Christ l'a pris. Il a payé nos fautes, il a payé telle ou telle chose, et je peux marcher avec lui. Jésus-Christ donne le pardon de nos péchés. Le pardon de nos péchés. Je voudrais voir avec vous 5 mots en hébreu qui parlent du pardon du péché. 5 mots en hébreu. Le premier mot, c'est salak. Salak. Ce mot-là, ça veut dire épargner et acquitter. Et pour vous l'expliquer, je vous donne un petit peu un côté un peu théâtral. Il faut comprendre que chacun d'entre nous, on est coupable. Nous sommes tous coupables devant Dieu. Nous sommes tous pécheurs. Et lui, notre Dieu, il est saint et il est entièrement droit. Et vous imaginez, par exemple, un avocat, un accusateur, vous, en tant que coupable, et puis le juge. L'accusateur, lui, il vient en présentant la liste de tout ce que vous avez pu faire. Hein. Voilà, je l'accuse, il a fait telle ou telle chose. Et puis vous, vous avez beau dire, bon, j'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça, j'aurais pas dû, vous avez beau avoir du regret, eh bien l'accusateur, il vient et en disant, voilà, il a fait telle ou telle chose, il peut être condamné. Et le juge qui est là, le père, il dit oui. Oui, tous ont péché, tout le monde est coupable. Et donc là, c'est fini, vous pouvez être pris et enchaîné pour être séparé de Dieu. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le Fils, lui, il est là, le Fils se lève, il dit oui, il est coupable, mais moi je veux payer sa dette, je veux acquitter, je veux l'acquitter. Dans le nom de Jésus, c'est ce qu'il fait, le Seigneur veut acquitter chacun d'entre nous. On a une dette, on est coupable, mais on est acquitté. Vous êtes acquitté. Ça, c'est le premier mot qui parle du pardon de Dieu. Salak. Est-ce que quelqu'un veut le salak ce matin? Quelqu'un, est-ce qu'il veut être acquitté de tout ce qu'il a pu faire? Vous savez, il y a des remords, des regrets. On sent qu'il y a quelque chose qui est là, qui est pesant. J'aurais pas dû être ainsi, j'aurais pas dû faire cela, j'aurais pas dû faire ceci. Mais Jésus est là pour nous acquitter. Amen. Il y a aussi kafar. Pas le cafard mental, qui veut dire déchirer ma dette, déchirer ma dette. Dernièrement, il y a un homme qui s'est suicidé suite à... C'était quelqu'un qui faisait beaucoup il allait dans les jeux et il consommait beaucoup dans ces choses-là et il est mort en mettant sa dette sur lui. Il s'est suicidé avec sa dette sur lui. Et nous avons tous quelque part une dette. Nous avons tous des choses sur lesquelles on n'est pas fier. Il y a des choses où on est honteux. Hein. Il y a des choses qui sont dans le secret des cœurs. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas fier. Mais il y a la puissance du pardon. Le kafar. Il a déchiré ta dette. Il a déchiré ta dette. C'est vrai qu'on est imparfait, mais Dieu déchire notre dette. Il nous protège. Et il ne nous permet pas non plus que cette défaite vienne nous détruire. Est-ce que vous le saisissez ce matin, le pardon de Dieu? Il permet que ces choses-là ne viennent pas te détruire. Il y a aussi naka. Ça veut dire pardonner des fautes qu'il ne connaît pas. Des fois, on a besoin d'être pardonné des fautes qu'on ne connaît pas. Des fois, on fait des choses et on se dit, mince, les conséquences qu'il y a derrière, je ne pensais pas que ça allait faire telle ou telle chose. Ou des jeunes qui, un peu d'une façon spontanée, ils font quelque chose. Et puis après, il y a un regret, il y a quelque chose qui vient, et il y a une faute qui est là. Et puis des fois, ça suit longtemps, cette faute-là. Hein, ça suit longtemps. Et des fautes qui viennent, qui vous hantent, je ne pensais pas que telle situation allait faire telle ou telle chose. Mais la parole nous dit que même ça, Dieu le pardonne. Il m'a pardonné sur les fautes que je ne pensais même pas, même les conséquences. Il me sauve de la culpabilité. Et il est celui qui me pardonne. Il y a aussi Nasa. Nasa, c'est redonner de l'honneur à une personne. Des fois, il y a des situations dans lesquelles on peut se mettre et on n'est pas honorable. Mais Dieu nous dit, voilà, viens là, tu es mon fils, tu es ma fille et je te redonne une place d'honneur. Nasa. Il y a peut-être des gens qui ont besoin de retrouver l'honneur dans leur vie. Des choses qui ont été faites, un déshonneur qui est là. Mais Dieu nous parle de ça Vous savez, nous, quand on parle de pardon, je trouve que c'est très limité, pardon. Mais quand on voit la parole de Dieu, il y a toutes ces choses-là. Il veut nous remettre dans l'honneur. Et il y a aussi Selectica. C'est un pardon reçu afin de revenir. On a besoin, des fois il y a des gens qui quittent la présence de Dieu suite à des erreurs, mais des fois ces personnes-là ont besoin de recevoir ce pardon pour revenir auprès de Jésus. Le psaume 130 en parle. « Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister ? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. » J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Nos pensées viennent souvent et nous perturbent sur des choses passées. Il y a des choses passées qui sont là, qui nous retiennent, mais Dieu nous pardonne pour qu'on puisse revenir à lui, que vous puissiez retrouver cette grâce. Vous savez, ce pardon-là, c'est un pardon qu'on retrouve aussi dans l'Évangile, quand Jésus guérissait un lépreux. Souvent, le lépreux, il était écarté. On ne veut plus te voir. Tu vas en dehors du village, tu sors de la société. Et Jésus, lui, guérissait le lépreux. Et puis, il disait, maintenant, va te montrer au prêtre. Alors, je ne sais pas si vous pouvez imaginer le choc. La personne revient, ça y est, je suis guéri. Non, tu n'as rien à faire ici, si. Ça y est, je suis guéri. Et c'est ça aussi le pardon. Le pardon pour revenir. Reviens, mon frère, ma sœur, reviens dans la présence de Dieu. Donc, le pardon de Dieu me permet de revenir. Donc le message de Jean-Baptiste, c'est un message où on doit se repentir, un message aussi qui annonce le pardon de Dieu. On a besoin du pardon de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et la dernière chose que je voudrais voir avec vous, c'est le message de Jean-Baptiste en tant que puissance et promesse. Puissance et promesse. Jésus a fait des choses pour nous, mais il veut faire aussi des choses en nous. Il veut faire aussi des choses en nous. La religion dit, voilà, reconnaît que Jésus est mort pour chacun d'entre nous. Mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut aussi faire, c'est ce que Jésus veut faire pour nous. Tu peux le comprendre, Jésus-Christ est mort à la croix pour moi, mais Jésus-Christ veut faire aussi quelque chose en toi, aujourd'hui, en toi. Jean-Baptiste dit, les vallées peuvent être comblées. Ce qui est tortueux peut devenir droit. Les montagnes qui t'écrasent peuvent être abattues. Et toute chair peut voir, connaître la plénitude de Jésus, de ce que Jésus a pour toi. Jean-Baptiste annonce le Christ, et je veux te l'annoncer ce matin, toute vallée peut être comblée. Toute vallée peut être comblée. Tout ce que tu as dans ton cœur, tout ce que tu recherches au fond de ton cœur. Cet amour qui peut te combler, l'amour de Jésus-Christ, tout ce que tu peux rechercher. Vous savez, tout ce que nous en sommes ici, à maintes reprises, on a essayé de combler le vide de notre cœur. On a essayé de combler le vide de notre cœur par des relations. Et puis on a senti que ça comblait pas le cœur. Par de l'argent, par de vouloir réussir, de la reconnaissance, mais tout cela, ça ne remplit pas le cœur. Jésus-Christ est venu pour que les vallées soient comblées. Amen. La vallée de ton cœur pour être remplie. Et il y a des choses qu'il n'y a que Dieu qui peut remplir ton cœur. Il n'y a que Dieu, cette relation avec Dieu, il peut remplir ce manque. Les vallées peuvent être comblées. Est-ce que vous croyez ce matin que Dieu veut faire ces choses-là ? Dieu veut aussi vous donner une capacité, il veut donner une capacité nouvelle. Amen. Une capacité nouvelle. Ce qui semble insurmontable. Il nous est parlé des montagnes. Les montagnes, des fois, waouh, comment je vais faire dans cette situation ? Et les montagnes peuvent être abattues. Une montagne, ça peut être pour certains une certaine forme de dépendance. Vous savez, il y a des gens qui touchent à des substances. On lui dit, tiens, Dieu peut t'aider, mais comment je vais faire ? Je vais manquer de telle ou telle chose. Et des fois, ces choses-là peuvent être comme une montagne en face de la personne. Et quand je pense à une montagne, je pense aussi à l'histoire de David et Goliath. Goliath, qui était en face de David, il était assez conséquent. Et David était plus petit. Il nous est dit dans la parole que le géant se présentait devant Israël pendant 40 jours, matin et soir. Le soir, ils se couchaient, ils avaient le géant en face d'eux, et le matin, ils se levaient, ils avaient le géant en face d'eux. Il y avait comme une obsession, le géant était là. Et je pense que là, vous me comprenez. Il y a des gens qui vivent avec un géant en face d'eux. Le matin, vous vous levez, ça va, puis d'un coup, hop, ça y est, il apparaît. Vous allez à votre journée de travail, vous pensez à autre chose, vous revenez le soir, hop, le géant revient. Le géant est en face de toi. Et vous avez beau essayer de dormir, de vous ressourcer, il y a quelque chose qui fait que le géant est toujours présent dans ta vie. Il y a peut-être quelqu'un ce matin, il y a un géant dans ta vie. Il est là le matin, il est là le soir, et ça t'épuise. Il y a quelque chose qui est là et tu n'arrives pas à te ressourcer. Ça peut être le géant, ça peut être des situations difficiles, ça peut être un divorce, ça peut être une maladie, un péché, un échec, une déception. Et vous avez beau essayer de vous dire, allez, je vais me secouer, il n'y a rien qui fait. Le géant est là, le matin et le soir. Et je voudrais qu'on déclare ce matin avec la foi qu'il peut y avoir un remplacement. Hein? Que ce géant puisse être remplacé par la présence de Dieu. Hein? Que le matin, quand tu te lèves, ce ne soit plus le géant que tu as en face de toi. Et ça, je veux qu'on le proclame avec la foi. Nous croyons que Jésus est capable de retirer cette montagne, ce géant. Et que quand tu te lèves le matin, ce n'est plus le géant que tu vois, mais c'est la présence de Dieu. Hein? Moi, il y a des géants aussi hein, qui me paralysent. Et je veux aussi que les uns et les autres, on puisse, avec la foi que Dieu nous donne, eh bien, prendre position. Amen, mes frères et sœurs. Amen. Donc la Bible nous dit qu'il s'occupe de nous. C'est quand on se sent dans l'échec, quand on se sent dans ces faiblesses-là, la Bible nous dit que Dieu veut donner cette force pour faire face aux géants qui sont en face de nous. Et il faut qu'il y ait une ferme détermination à travers ça. Je veux vraiment que votre foi soit active, une ferme détermination. Il nous est parlé aussi d'un chemin nouveau. Un chemin nouveau. Il y avait un chemin tortueux et Dieu veut nous donner un chemin nouveau. Un chemin tortueux, ça peut représenter un peu ta vie qui t'essaye de vivre un peu autrement. Mais tu n'es pas content de ce que tu vis. Tu n'es pas content, tu as l'impression de toujours retomber dans les mêmes choses. Il y a des choses qui sont tordues. Mais Dieu peut donner une nouvelle capacité, un nouveau chemin en lui. Jean-Baptiste annonce l'agneau de Dieu et on peut le recevoir. On peut recevoir cet agneau de Dieu. Et Jésus est capable de rendre ce chemin tordu, eh bien, il peut le rendre droit. Donc Dieu veut nous donner une capacité nouvelle. La dernière chose que je voudrais voir avec vous, c'est au verset 21. Il est parlé, on ne va pas le lire, mais il est parlé que quand Jésus est baptisé, il y a une voix qui se fait entendre. Et cette voix, c'est « Voici mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. » Jean-Baptiste dit que c'est lui qui ôte le péché du monde. Et cette voix s'est fait entendre en disant « Celui-ci est le Fils en qui j'ai mis toute mon affection. » Aujourd'hui, en 2017, cette parole est toujours là d'actualité et on peut recevoir ce pardon. Dieu peut venir nous aider dans nos difficultés. Il peut nous ressourcer dans notre vie, dans notre cœur, dans nos émotions. Et ce que j'aimerais aussi, c'est que chacun d'entre nous, on vienne d'une façon personnelle et que tu puisses entendre cette voix. Celui-ci est ma fille, et mon fils et ma fille bien-aimée. Alors certains vont me dire, attends, c'est des paroles qui ont été annoncées au Christ. Et quand vous lisez la parole, il est marqué, Jésus a dit ça. Moi, Père, je prie pour que le monde croie que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Voici mon fils et ma fille. Des fois, on a l'image d'un Dieu qui ne se préoccupe pas des uns et des autres, mais Dieu s'est fait de chair, il a été tenté comme nous. Il est passé par les eaux du baptême, non pas pour faire un exemple quelconque, mais pour dire qu'il se met dans les mêmes conditions que nous. Quand il pardonnait réellement. Il ne pardonnait pas comme un homme religieux. « Oh, je te pardonne. » Non, il pardonnait en disant « Je comprends ce que tu vis. Ce que tu as fait, même, quelque part, moi, Il y a des moments où j'aurais peut-être pu faire aussi telle ou telle chose. Il a pleinement vécu les tentations comme nous. Il n'est pas du tout un homme qui se prend au-dessus. Il est Dieu. Il est celui qui pardonne pleinement. Et il peut te dire ce matin, tu es mon fils et tu es ma fille bien-aimée. Amen. Amen. J'aimerais appeler le groupe de louanges. Et j'aimerais te donner un temps de recueillement et puis permettre aussi à certains eh bien, de saisir l'occasion de s'approcher de Jésus-Christ. Pour certains, c'est les premières fois que l'Évangile est annoncé et nous croyons que eh bien, Dieu appelle les uns et les autres. On croit que eh bien, cette grâce, cet Évangile, il est là pour chacun d'entre nous. J'aimerais qu'on reste dans le recueillement. Je vais faire un appel pour ceux qui... Voilà. Ce matin, ce qu'on a vu, c'est Jésus a fait des choses pour toi. Et Jésus va faire des choses en toi. Celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus est celui qui peut rendre le chemin droit. Tout ce qui est tordu, eh bien, il peut le redresser. Et je crois que la main de Jésus ce matin est là, et il est tendu à certains d'entre nous. Je crois qu'il y a certains qui ont été peut-être interpellés par rapport au pardon. Vous savez, des fois, il ne faut pas beaucoup de mots pour mettre nos erreurs devant les yeux. Il y a une culpabilité qui est là. Et je crois que Jésus veut ce matin pardonner. Il veut donner cette possibilité eh bien, de se libérer d'un poids du passé. Il y a un poids qui écrase, il y a des gaffes qui ont été faites, il y a des erreurs qui ont été faites. Un poids qui est là, qui est même irréparable. Il y a des choses qui ont été perdues. Mais le pardon de Dieu est là pour te prendre là où tu es ce matin. Pendant que le groupe joue... J'aimerais faire cet appel. On reste dans le recueillement parce que j'aimerais vraiment que... Vous savez, il y a des instants qui sont éternels. Il y a des moments qui sont voulus de Dieu. Cet endroit, on dit que c'est un endroit béni parce que le Seigneur est là au milieu de nous, au milieu des frères et sœurs. Ce n'est pas le bâtiment, mais c'est la relation les uns avec les autres. Amen. C'est le corps de Christ. Et ce que je voudrais ce matin, c'est que quelqu'un puisse saisir cet appel. Qu'il y ait, non pas pour faire plaisir aux hommes... mais qu'il y ait, je veux que tu saisisses ce matin, la grâce de Dieu, saisis-la. Je demanderais tout simplement, dans le recueillement, si quelqu'un veut recevoir ce pardon de Dieu, si quelqu'un veut recevoir aussi Jésus-Christ pour la première fois, si quelqu'un a besoin de revenir à lui, si quelqu'un a besoin d'être pardonné sur des fautes, sur des gaffes qu'il ne pensait même pas connaître les conséquences plus tard, si quelqu'un a besoin de ces choses-là, bien... Est-ce que tu peux lever ta main à ta place pour recevoir ce pardon de Dieu? Amen. Seigneur, vois ta main. Amen. Seigneur, vois ta main. Toi aussi. Alléluia. Dieu voit votre main. Amen. Amen. Dieu voit ta main. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Croyez puissamment dans votre cœur que Dieu veut vous libérer ce matin d'un poids, d'un fardeau. Tous les termes qu'on a vus sur le pardon, Dieu l'accorde. Alors certains vont se dire non, c'est pas possible. Si, en Jésus-Christ, il y a des choses qui sont là, pesantes, mais Jésus est là pour nous donner ce pardon. Dieu est là pour déchirer ta dette, la dette du passé. Certains ont besoin de Jésus-Christ ce matin. J'aimerais vraiment qu'on puisse prier dans ces instants. Il y a peut-être un géant dans ta vie, il y a quelque chose qui est là, qui est comme une obsession. Et nous voulons proclamer que ce géant soit ôté, que la présence de Dieu soit dans ta vie. Il y a un manque qui est là, il y a des difficultés, il y a une dépendance, il y a des choses que tu regardes peut-être à la télé, il y a des dépendances à des choses pornographiques, à des substances. Tu es celui qui rachète, celui qui est désespéré. Nous l'avons chanté et nous voulons encore le chanter. Cet amour est là pour racheter les perdus. Et nous voulons vraiment que le chemin soit préparé dans le nom de Jésus. Amen.